Vous me demandez le plan de ma vie, de mes occupations. Je vous en fais le détail avec sincérité. On me reproche d'aimer à dormir. Il est vrai que j'ai un peu ce défaut. Je me couche de bonne heure et me lève tard. Je monte à cheval fort souvent pour examiner la position des ennemis et la nôtre. Dès qu'on est 3 jours dans un camp, je le connais jusqu'au moindre ravin, aussi bien que monsieur le maréchal. Je fais d'après mes réflexions, bonnes ou mauvaises, je les dis et je suis louée ou blâmée à proportion du peu ou point de sens commun qu'elles ont. Quelquefois, je fais des visites, mais ce n'est que chez monsieur de Poyanne ou chez mes anciens camarades des carabiniers ou du régiment du roi. Je fais peu de cérémonies. Je ne les aime pas. Il faut faire sa cour pour réussir, mais je n'aime pas à le faire. Je souffre quand j'entends quelqu'un dire à un autre, pour le flatter, 1000 choses que souvent il ne pense pas. Il est plus fort que moi de jouer un aussi sot personnage. Être poli, honnête, haut, sans fierté, prévenant, sans fadeur, faire assez souvent ses petites volontés quand elles ne nous nuisent pas, ni à nous, ni à personne, vivre bien, s'amuser sans se ruiner ni se déranger, peu d'amis, point peut-être, car il n'en existe pas un véritablement sincère et qui ne vous sacrifia 20 000 fois si le plus léger intérêt de son côté s'y trouvait engagé. De l'égalité dans le caractère, qui vous fasse bien vivre avec tout le monde, sans jamais cependant se livrer à personne, car vous ne l'êtes pas plus tôt que vous avez lieu de vous en repentir. Dire le plus grand bien, faire les plus grands éloges de gens qui, souvent, sans sujet, ont dit beaucoup de mal de vous, sans que vous puissiez vous en douter. Car presque toujours, ce sont ceux qui ont les « dehors » les plus attrayants et qui paraissent le plus rechercher votre amitié qui vous trompent le plus. Voilà mes vertus. Voilà où j'aspire. Il en est des amis, comme des femmes. L'épreuve fait souvent voir que la marchandise est souvent trompeuse. Voilà toute ma confession.
Alors, on voit ici un Sade à 20 ans assez sombre et assez pessimiste moralement. D'abord, il est pessimiste sur la vie sociale, sur les conditions de ce qu'on appelle à son époque la carrière. Que faut-il faire pour réussir ? Sade le découvre pendant son service militaire, mentir, flatter, courtiser. Pour lui, très tôt, il s'aperçoit que cette éthique n'est pas la sienne. Sade apparaît, jeune déjà, comme un personnage sans compromission, quitte à renoncer à la carrière, quitte à dessiner l'idéal qu'il esquisse lui-même dans sa confession, une vie assez neutre, hein, s'amuser sans se ruiner, passer inaperçu, avoir peu d'amis, une espèce de petite vie un peu tiède, qui n'est peut-être pas exaltante, mais qui au moins ne lui coûte pas d'avoir dû mentir, d'avoir dû flatter, d'avoir dû prononcer des mots qu'il ne pense pas. Il y a un côté sans concession et triste, un peu mélancolique chez ce jeune Sade, mais qui va découvrir aussi, c'est pas très gai, hein, mais autant rentrer dans la vérité de ce que nous dit cet homme, qui va découvrir aussi, pour lui en tout cas, comment fonctionne le monde. Ce qui va nourrir chez Sade toute une réflexion philosophique et même, plus précisément, morale, réflexion qu'on va trouver déclinée dans toute son œuvre. Le monde, constate-t-il, est corrompu. Ceux qui ont le pouvoir ne le méritent pas. Ceux qui ont des principes et qui sont justes sont toujours minorés ou sanctionnés. Je vous avais prévenu que ce n'était pas gai. Face à cet état de fait d'un monde que Sade constate comme étant fondamentalement injuste, c'est-à-dire un monde dans lequel les justes ne sont jamais récompensés, mais les salauds, que faire ? Question philosophique. Deux options. Puisque le monde est gouverné par les scélérats, et puisque le vice paye, bien sûr, il y a une voix en vous et autour de vous qui s'élève et qui vous dit « Eh bien, devenons vicieux, nous aussi. Devenons hypocrites, faisons le mal, puisque de toute façon, c'est le mal qui réussit, c'est le mal qui paye. Ce sera l'école Juliette. Juliette, dont l'héroïne du roman de 1797, dont Sade intitule La Confession, Juliette ou les prospérités du vice. Le titre est tout un programme, puisque le vice prospère, autant le pratiquer allègrement. Et donc Juliette, à l'âge de 14 ans, comprend que lorsqu'on est une femme, pour réussir, il faut perdre sa vertu et sa virginité immédiatement. Elle n'en fait pas une affaire, elle la perd, et d'autant qu'une courtisane lui dit « tu la perds, mais on peut te la redonner artificiellement à peu près 200 fois, donc on ne va pas non plus sacraliser la virginité, puis tu verras, le monde y marche comme ça ». Elle se prostitue, elle réussit, elle s'enrichit, etc. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une autre version que Sade soutient avec la même conviction, une autre école philosophique, qui consiste à dire, mais si le vice domine, on peut quand même opter pour la vertu. Mais, si nous sommes vertueux dans un monde qui ne l'est pas, nous souffrons. Et nous souffrirons tout le temps. C'est l'option Jésus-christique, c'est l'option Justine. Justine, que Sade invente comme étant la sœur de Juliette, il y a un diptyque des deux sœurs, Juliette ou les prospérités du vice, Justine ou les malheurs de la vertu. Sade ne tranche pas. Il nous montre deux choix de vie. A priori, nous lecteurs, nous disons que Justine est vraiment une martyre du bien. Vous connaissez l'histoire. Justine pratique une vertu. Par principe, elle a des vertus, le bien, la charité, la bienfaisance, la pitié. Et donc, Sade la met en scène comme pratiquant méthodiquement ses vertus. Exemple, elle marche sur un chemin. Alors d'abord, elle est avec sa sœur Juliette. Et puis, donc, Juliette lui dit, ben, écoute, t'as compris, la vertu, il faut la perdre tout de suite. Et là, Justine dit, ah ben non, moi, je préfère garder la mienne. Je sais jamais, je sais pas. J'aime pas ces principes. Je préfère rester vertueuse. Alors là, Juliette lui dit, bon, on va se séparer, parce que je pense qu'on ne va pas du tout avoir la même vie. Et donc, les deux sœurs se séparent et momentanément, on n'entend plus parler de Juliette. Justine marche sur la route et puis elle voit un mendiant qui lui demande de l'argent. Elle se dit, soyons charitables, c'est là une vertu. Évidemment, il s'agit d'un faux mendiant qui l'attaque, qui la viole. Pas tout à fait, parce que par un étrange miracle narratif, Justine gardera sa vertu jusqu'au bout. Malgré tous les sévices qui lui seront imposés. Mais on voit à quel point, du coup, pour Sade, c'est une espèce de cas anthropologique, Justine. Peu importe qu'elle soit vierge ou pas, ça n'a plus aucune ressemblance dès la page 12 du texte. Mais c'est l'idée d'une vertu totale, d'une vertu un peu radicale. Justine, c'est un peu le Robespierre du bien. Je fais le bien. Et on lui dit... Alors très vite, du coup, elle souffre. Elle voit très bien que c'est un faux mendiant. Elle continue. 200 pages plus loin, elle rencontre, là encore, elle voit un homme attaqué dans les bois, elle se dit le pauvre, elle vole à son aide, bien sûr c'était une mise en scène pour l'attirer, hop, elle est violée, on la laisse à moitié nue se faire dévorer par des chiens, et là, nous lecteurs, on attendrait qu'elle se dise, bon, j'arrête le bien, stop. Eh bien, pas du tout. Elle continue. Et c'est pour nous, du coup, une expérience de lecture assez troublante. D'abord agaçante, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et après, douloureuse. Et en fin de compte, morale. Parce que finalement, quand on relit ensuite l'histoire de Juliette, Juliette, bien sûr, elle perd sa virginité au jour 2. Au jour 3, elle couche avec son père. Tant qu'à faire, autant lever tous les tabous. Ensuite, on lui dit, tu veux réussir, ça ne suffit pas d'avoir couché avec tout le monde. Il faut tuer, il faut pratiquer le meurtre. Qu'à cela ne tienne. Et il y a une surenchère comme ça dans Juliette qui, a priori, peut sembler fascinante. Sauf que, très rapidement, Juliette, elle s'ennuie. Quand on a couché avec son père, tué sa mère, elle se dit « qu'est-ce qu'il me reste à faire ?» Et là, elle a une idée, parce qu'elle rencontre... Ils lui disent « mais attendez, il y a encore un... Qu'est-ce qu'on peut... Où on peut encore trouver une petite raison de vivre ?» Elle dit « s'il me reste quelque chose à faire, c'est coucher avec le pape. » Et donc, elle va à Rome, il y a une grande scène... Dans l'histoire de Juliette, où Juliette couche avec tous ses amis, une espèce d'orgie sexuelle, au Vatican avec le pape. Mais quand bien même vous couchez avec le pape, etc., il y a l'ennui qui vous gagne. Et l'histoire de Juliette, elle est très rapidement mélancolique. Les personnages sont là, ils ont tout essayé, ils ont même mis des animaux, des dindons, ils ont tout fait. Et finalement, l'histoire de Juliette, elle piétine. Mais c'est ça que nous dit Sade aussi. Quand on a tout consommé tout de suite, il ne reste rien à attendre. Alors que Justine, au début, on la trouve ridicule, on la trouve même ensuite sacrificielle, on la trouve même vraiment christique. Sauf que Justine, elle dit « moi, je reste vierge ». Alors les hommes essayent des choses sur elle, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils n'arrivent jamais au bout. Donc elle, du coup, elle dit « j'ai jamais vraiment connu le plaisir ». Du coup, toute ma vie, je peux le rêver encore. Alors que sa sœur, elle a tout goûté. Et du coup, ses goûts sont dépravés. Comme dit Sade, elle est blasée. Il n'y a plus rien qui l'excite. Alors que Justine, en effleure sa main, elle frissonne encore. Vous voyez ? Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, la philosophie de Sade, de ce point de vue-là. Peut-être que le bien douloureux, solitaire, ascétique, qu'est le choix de Justine, n'est peut-être pas si ridicule que ça. Peut-être qu'il vaut mieux souffrir dans un monde injuste que perdre son âme et réussir dans ce même monde. En tout cas, c'est toute la question troublante, je trouve, et tristement actuelle aussi, de l'œuvre de Sade. À un moment donné, dans un autre de ses grands textes signés, parce que la plupart de son œuvre est anonyme, sauf certains textes qu'il a publiés sous son nom, en particulier Aline Valcourt, son grand roman épistolaire de 1795. S'il y a un jour un texte qui doit être mis à la grecque de Sade, ce serait celui-ci. Hein. C'est vraiment la nouvelle Héloïse de Sade, le roman épistolaire de l'amour impossible, 1795. Les femmes qui traversent tous les pays d'Aline Valcourt se posent sans cesse la question, voyant que le monde est injuste, que les barbares règnent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme eux ou il faut rester comme on est nous, etc. Et puis un jour, elles trouvent refuge dans une troupe de bohémiens. Alors ça, c'est toujours l'idéal de Sade, parce que les bohémiens, étant justement itinérants et ayant leur propre législation, n'appartiennent à aucun système. Ils sont du coup protégés de la perversion de toute institution humaine, puisqu'ils sont toujours en mouvement. Pour ça, dès que l'humain s'installe, fait une constitution, une société, il se déprave, il devient violent, alors que les bohémiens sont sauvés. Et puis le chef des bohémiens, qui s'appelle Brigandos, qui est un très beau personnage, un soir donne une petite leçon de philosophie aux deux filles qui l'ont rejoint, et elles lui disent « qu'est-ce qu'il faut faire, Brigandos, dans un monde injuste ? Limiter ou au contraire lui résister ?» Et lui, il a cette phrase assez cruelle, il dit « il y a trop de risques d'être seul bon dans un siècle absolument pervers. » Alors voilà, ça c'est un Sade que je trouve très troublant. Hein, c'est dit « il y a trop de risques d'être seul bon dans un siècle absolument pervers. » C'est une question à laquelle on se heurte à peu près tous, hein, aujourd'hui, encore au quotidien, quel que soit notre domaine d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Souffrir et incarner des principes qui sont plus ceux du monde, ou au contraire faire comme tout le monde et perdre son âme. Je n'ai pas la réponse. Hein, mais Sade, en tout cas, se pose cette question de manière très forte, et dès sa jeunesse, dès 20 ans. On voit donc un pessimisme moral chez Sade. On voit, dès qu'il est très jeune, il le dit, les amis, les femmes, c'est une marchandise trompeuse. Comme si, très tôt pour lui, l'humanité s'était lézardée. Hein, le vernis s'était d'un coup écaillé, pour laisser voir ce qu'est l'humain, au fond pour lui, quelque chose d'assez peu réjouissant. Alors, les hommes l'ont intéressé au sens générique, hein, l'humain, mais parmi l'humain, Sade s'est beaucoup intéressé aux femmes. Il faut donc qu'on fasse un sort aussi, dans cette soirée, à ce qu'on pourrait appeler les mystères du féminin chez Sade, parce que là encore, tout a couru sur lui. Est-il misogyne ? Est-il au contraire le grand libérateur de la féminité ? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Sade a voulu comprendre les femmes, y compris dans leur plus profond mystère, pour lui, leur anatomie. Cela passe par un projet pédagogique. L'œuvre de Sade est tout entière une espèce d'école sur le corps féminin, ses fonctionnements, mais aussi son plaisir. C'est le cas en particulier au début de la philosophie dans le boudoir, où des libertins donc Dolmansé, leur chef, et puis deux autres acolytes, pardon, vont faire venir une jeune femme, Eugénie, qui a 14 ans, qui sort du couvent, qui est très ignorante, là encore, recontextualisons, comme toutes les jeunes femmes de l'Ancien Régime. On les mariait très jeunes, à peu près à cet âge-là, 14 et 15 ans, sans leur avoir jamais expliqué ni leur corps, ni bien sûr encore moins le corps d'un homme. Et donc elles découvraient tout de la manière la plus violente qui soit, tout, la grossesse aussi. Il y en a qui ne comprenaient pas après ce que c'était qu'être enceinte. Et il y en a même qui se demandaient d'où l'enfant, où l'enfant allait pouvoir sortir. Enfin, on leur avait, il y avait une méconnaissance totale de l'anatomie. Et ça, donc, décide que cette jeune Eugénie, dans la philosophie, dans le boudoir, elle aura sa leçon d'anatomie, pour reprendre le titre du célèbre tableau de Rembrandt. Alors, c'est la philosophie dans le boudoir et la leçon d'Eugénie.